tous les jours à 10h pendant le confinement. Journal de la peste par Aurélie Ruby.
Enfin, elle arrivait jusqu'à la mer. Cette sensation d'horizon que le bitume lui avait fait oublier, elle la retrouvait instantanément en posant le pied dans le village breton. Camaret-sur-Mer était paisible comme la brise et douce comme le vent dans des cheveux libres. Ces petites rues recouvertes de pavés appelaient une appartenance. Ces commerces portaient le charme de l'ancien et le sourire des terres que l'on ne veut quitter. Face à l'eau, elle se reconnectait à son être intime. Elle ne pensait plus à la Méditerranée qui charriait les corps des 10 migrants. Elle oubliait le béton qui enfermait les travailleurs acharnés. Comme ses concitoyens, la connexion permanente à l'actualité créait des interférences perpétuelles et des impossibilités constantes. La tête vide, cette fois. La tête vide et le corps tendu vers la mer. Depuis sa séparation, elle porte en elle la solitude comme un être cher et protecteur, mais aussi comme une balafre visible de tous. Ce que son champ de vision lui permettait d'apercevoir à l'instant, c'était le port de ce village. Les mâts des bateaux se heurtant dans une musique chamanique et les coques flottant avec douceur et l'horizon. C'est à ce moment que le vent vibra et qu'elle décida de goûter l'eau. Il faisait nuit, la plage était déserte. Le pied goûte, la cheville boit, le genou vibre, l'eau se glisse entre les cuisses dans l'entrejambe vivifiée. Le sel englobe les seins, mord les tétons. La nappe noire de la nuit s'enroule autour du corps vacillant de la citadine désarmée. La solitude est un cadeau pour les sensations. Elle se glisse dans les interstices de la peau et coule dans le cœur saignant. Il faut retrouver le sens des choses, s'il a existé un jour en dehors de l'amour, ce qui n'est pas certain, absolument pas certain. L'amour est risible, mais il est le plus puissant des moteurs. Ça y est, elle nage. Elle nage et elle se sent brûlante, stimulée par la fraîcheur de l'eau et le mouvement des vagues. La mer est un rituel, la mer est une matrice, la mer est un retour à la vitalité simple du corps. Elle pourrait se laisser flotter loin, loin, loin des fables sociales. Elle plonge la tête dans l'Atlantique béant. Chacune des racines de ses cheveux s'imbibe d'eau et une onde froide traverse son crâne. Il n'y a rien de mieux qu'un bain de mer. Non, certainement rien de mieux. Il ne le sait pas non plus. Mais il a terriblement besoin de rencontrer Ophélie ce soir. Il est enfin arrivé jusqu'à la mer, lui aussi. Il se dirige vers Brest, où un mariage l'attend. C'est la saison. Il ne devait pas y aller seul, mais la vie en a voulu autrement. Elle est partie. Il y a 3 mois, celle qu'il croyait être la bonne a tout plaqué, l'appartement, le chat, le marketing et lui, et a dit « Ce n'est pas ma vie, je dois partir, je dois me trouver, me rencontrer, j'ai pris un billet pour le Tibet, tu ne m'en veux pas ?» Le Tibet, franchement. En arrivant à Camaret-sur-Mer, il a eu envie d'une glace. Il n'aurait pas dû venir dans ce village où ils avaient prévu de faire escale, mais il n'a pas eu le courage de changer le programme. Camaret-sur-Mer, il paraît que c'est charmant. J'y mangerai au moins une glace, au moins cela sera à moi. Caramel, beurre salé, vanille, noisette, éclat d'amande et chantilly. Au moins, la fraîcheur de la glace lui brûlera le palais et flattera ses papilles dégoûtées. Au moins, sa bouche profitera de ce que son cœur ne ressent plus. La légèreté de la crème fouettée se mélange à la lourdeur froide de la boule glacée. Elle coule dans l'œsophage vibrant et la langue goûte. Il s'apprête à croquer dans le biscuit breton au moment où Ophélie passe devant la terrasse comme un chien mouillé fier de son escale nocturne. Elle voit immédiatement le jeune homme seul, prêt à croquer dans son biscuit. En voilà un qui sait vivre. À l'heure de la pleine lune et du clapotis des bateaux, il se tape une coupe glacée, jogging, claquette aux pieds. L'idée paraît si bonne qu'Ophélie s'arrête immédiatement et demande au serveur si elle peut commander. Elle s'octroie un petit éclat dans la voix, comme si la bonne humeur et la solitude assumée étaient un cadeau du mois d'août. Elle choisit sa coupe de glace comme elle aurait choisi sa vie. La coupe Piémont-sur-Mer, s'il vous plaît. Merci. C'est adorable. Quand on a un peu vécu, on voit se dérouler le champ des possibles dans l'œil d'un inconnu. Le récit se tisse avec précision et subtilité. Elle se délecte avec fracas, il fait durer la fin de sa coupe. Le décor offert aux amants permet au cœur d'écrire avec une plume de sable. Il se toise, cherchant une phrase d'accroche. La situation est simple. Le vent caresse les visages. Il veut se lancer, elle devance. Tu as pris quelle coupe ? Piémont-sur-Mer, un comme moi ? Non, c'est toi qui as pris la même que moi. Tu fais de la randonnée ? Non, je vais à un mariage. Et toi, je reviens d'un mariage. Faudrait-il que chaque parole soit à la hauteur de ce qui se joue inconsciemment dans les cœurs ? Non. La conversation se déploie. Ils dégagent leurs chaises et leurs tables et tournent légèrement l'un vers l'autre. Le regard curieux, curieux de la situation, curieux de l'autre, curieux certainement de la race humaine. Il a l'œil timide. Elle se découvre puissante. Il raconte qu'il est étudiant en médecine. Elle est surprise. Son regard fuit vers l'arrière comme s'il attendait quelqu'un, mais personne ne vient. La réalité est plus forte que les mots. C'est un bonheur de tomber amoureux de la pleine lune. Il continue à raconter comme pour valider sa propre histoire. J'ai interrompu mes études parce que j'y voyais aucun sens. En fait, je trouvais pas le sens. Les études de médecine sont complètement coupées de la philosophie de l'humain. C'est à vous rendre fou. Mais tu as repris ? Oui, je suis interne actuellement, dans une petite ville, dans le centre. Oui, il faut finir médecine. On se fait pas chier à faire 5 ans pour arrêter avant l'internat. T'as choisi quelle spécialité ? Médecine générale. Dans une autre vie, j'étais judoka. Quand je suis tombée malade, j'ai compris à quel point le corps et l'esprit participaient du même mouvement dans la guérison. Et c'est là que j'ai décidé de m'inscrire en médecine. Et puis j'ai perdu le sens et j'ai arrêté pendant 1 an. Il a le regard clair et le sourire tendre, la bouche bien dessinée et la timidité bien placée. Ils échangent déjà depuis plus d'une heure. Le serveur informe de la fermeture de la terrasse. Ils partent ensemble. Ils ont l'air de retrouver chez l'autre une moitié perdue. Ils cherchent un bar où continuer la soirée. Comment tu t'appelles ? Ophélie. Et toi ? Marc. Enchanté, Marc. Oui, enchanté. C'est dans les conversations les plus simples que se jouent les moments les plus justes, non. Le bistrot irlandais passe les Pink Floyd. Partageant une pinte avec cet inconnu en bord de mer, elle se sent bien. Ça fait longtemps qu'Ophélie ne s'est pas sentie bien. C'est un instant qui se vit, et sa simplicité l'émerveille. Elle se garde bien de le dire. Avant, elle fonçait dans les murs et les murs pouvaient tomber sous le poids de sa volonté. Maintenant, elle se méfie. Ils reprennent les quais et s'en vont finir leur bière sur la plage. Il est passé minuit. Le vent est doux et frais. Soudain, elle dit qu'elle va aller se baigner, que c'est l'heure du bain de minuit. Elle se déshabille entièrement. Peut-être accélère-t-elle la cadence d'un instant d'éternité sur cette plage. Il la suit, maladroit, étonné. Elle plonge. Prise de la folie des sirènes qui sont appelées par les fonds marins. « Viens, elle est bonne !» Il plonge à son tour. En une fraction de seconde, les deux êtres sont peau à peau dans un océan nocturne. Elle sent sa peau, arrête de bouger. Il sent ses seins, se fige. Leurs regards se plongent l'un dans l'autre, éclairés par une fière et sensuelle lune. C'est intense, c'est beau. C'est froid. Et dans l'entière vérité d'une nature qui parle à la peau, il s'exclame, avant même qu'ils se soient embrassés, « Mais il faut qu'on se mette d'accord, hein, je veux pas être en couple. » Ça sort comme une confession inversée, comme un cri de colère, Comme un aveu incontrôlé, surprise par l'honnêteté ravissante de ce garçon, elle rit. « Non, t'inquiète pas, il ne s'agit pas de se mettre en couple. » Mais elle est troublée par sa réflexion. Il continue comme pour lui-même. « Mais je peux te faire l'amour. » Elle aime ce langage. Là où beaucoup se projettent et se protègent derrière une vulgarité affichée. Elle pose ses mains sur la barbe de Marc, de chaque côté du visage avec douceur, et elle l'embrasse. Il y a quelque chose de christique dans la scène. La présence de Marc fait taire son sarcasme de bouffeuse de curé. Marc, l'apôtre. Un verre de Claudel lui vient. « Il ne faut pas comprendre, mon bon monsieur, il faut perdre connaissance. » Partage de midi, la mer, l'horizon et Dieu. Elle garde la poésie pour elle. Les langues se touchent et se mêlent au goût de l'eau. Le menant vers le sable, elle le laisse s'allonger entre ses cuisses, salées par la mer, en mouvement, c'est sensuel, mais il a froid. Tout va trop vite pour lui, il tremble. Le camping reprend le dessus. Et l'air adolescent de l'aventure estivale réapparaît sur l'écume. Ils commenceront par s'entraîner sous la douche brûlante. L'eau coule sur leur corps. Ils ont allumé la lumière, il veut la voir. Un tatouage le long de sa cuisse droite. Il raconte l'histoire du tatouage avec l'air de se justifier. Avec le maillot de bain, on ne le voit pas trop. C'est certainement l'argument qu'il avait donné à ses parents à l'époque. L'invisibilité du tatouage comme gage de sécurité. L'air d'une éducation classique, sous un cœur empreint de doute. Elle est touchée par ses attitudes. Elle se sent fragile. Il se touche, entre dans une danse sensuelle qu'elle aurait peine à décrire. Il tente de s'accorder. Elle est peut-être la première aventure depuis sa séparation. Il a le sens du geste, mais il ne s'abandonne pas. La quête de sens est le sens du geste. Elle est surprise comme la timidité de l'inconnu a disparu dans l'art du geste. Déstabilisée, elle pose ses mains délicatement sur le corps bien moulé et elle chuchote « Pas de performance, s'il te plaît. Pas de performance. » La réponse lui vient de la sensation des mains de cette femme inconnue sur son corps. « Tu as une telle douceur. Quelle douceur tu as ?» Le combat des sexes se fait avec intensité et délicatesse, entre brutalité et tendresse, jusqu'à ce qu'il pose à son tour ses mains de chaque côté de ses joues à elle et stoppe tout mouvement, un temps. Tu as l'air tellement blessée. Encore une fois, il l'a surprise, elle s'arrête net. Veut-il reprendre le pouvoir ou bien dit-il simplement ce qu'il ressent, car l'âme est aussi nu que le corps dans l'instant où les chairs se parlent. Encore une fois, elle n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'elle répondra et qui sera le fil de ce qui s'écrit entre eux. On n'a jamais le temps de réfléchir à la réplique suivante et pourtant, chaque phrase est décisive. « À qui le dis-tu ?» Elle aurait préféré répondre « Toi aussi tu es blessé, je le vois, je ne suis que ton miroir à cet instant, le miroir de ta propre blessure. » Mais elle dit « À qui le dis-tu » Lui continue à l'instant où la douche automatique cesse de donner son eau. « Si tu veux, tu peux pleurer. On arrête tout et tu peux pleurer. » Instant d'éternité. Qui est cet homme qui, sans rien savoir, élabore un processus de guérison accéléré? Il vient de faire tomber le masque. En lui donnant la permission de pleurer dans ses bras inconnus, il vient de valider sa blessure. Il est le premier à voir depuis un an. Elle pourrait s'effondrer dans ses bras, pleurer les larmes de son corps, se blottir contre ce torse, caresser ce visage bien dessiné et se laisser aller. Quel homme offrirait une telle alternative à la baise? Ce garçon est divin. Elle eut soudain peur de le perdre. « Non, il est hors de question que je te fasse subir quoi que ce soit », fut la conclusion à cet épisode troublant. Elle reprit le dessus en relançant la danse des langues et des peaux glissantes. « Tu es belle », fut le second cadeau qu'il offrit. « Tu es beau », fut la réponse appropriée. Ils auraient pu se perdre en compliments quand le monde rejetait les ordures, les cadavres et la pornographie sur les écrans des yeux ignorants. Tout acte sexuel se sent, se vit, il se souffle et se respire. Tout acte sexuel, surtout au cours des 20 dernières années, s'arrête net au moment où l'on s'exclame « Est-ce que tu as une capote ?» Je revois ma grand-mère assombrie par le récit plastique de l'acte sexuel moderne et de la peur qui lui est accolée, regardant avec condescendance la mémoire au bord des yeux. « Oh là là, mes pauvres, mais vous êtes une génération sacrifiée, hein, ça c'est sûr !» Alors, que penser de celle qui arrive ? Ophélie le regarda dormir un instant, puis ferma les yeux. C'est étrange de regarder quelqu'un dormir. Elle eut peur de lui voler quelque chose. Au petit matin, ils levèrent le camp. Il lui dit « Tu te souviens de mon nom ?»«
Oui, bien sûr.
Dis mon nom. »«
T'es sérieux? Tu crois vraiment que j'ai oublié ton nom ?»«
Dis-le. » »« Pour qui tu me prends ? Je suis présente à ce que je vis. Hein. »«
Dis mon nom. Dis-le. »
Marc, 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 Marc. Si elle avait dit ce nom une fois de plus, elle ne l'aurait pas laissé repartir. Mais elle se sentait déjà loin. Et déjà, il n'était plus avec elle. Ils allaient se séparer et ne pas se revoir. Elle se sentit timide, offerte. Il se sentit puissant, un peu sale. Il n'osait rien se dire. Seulement un regard, comme cet étrange. Se réveille avec la sensation de l'eau sur sa peau. Ça fait du bien. Elle jette un œil par la fenêtre. La lune est pleine. Du moins, il reste les souvenirs. Et la lune est toujours là, sensuelle, amicale. A-t-il quelqu'un qui l'aime et qui l'accompagne en ce moment ? Ou bien est-il seul dans sa grande maison, à soigner chaque jour?
Journal de la peste, par Aurélie Rubis.